Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans BOM, le podcast des échos qui s'intéresse au business de la musique. Dans cette seconde partie de cette série qui consiste à savoir si des grandes maisons de disques sont has-been face à Internet, nous allons laisser cette fois la parole au président de l'une des trois majors de l'industrie, Thierry Chassagne, président de Warner Music.
Tout change et rien ne change. Tout change parce qu'aujourd'hui, la consommation de musique se fait différemment d'il y a 15 ans, mondialement, mais aussi en France. Et rien ne change, parce qu'il faudra toujours avoir des tubes avec des artistes qui portent ces tubes. Donc la fonction artistique, elle, restera toujours la même. Il faudra toujours avoir des gens, c'est notre métier de producteur d'ailleurs, il faudra toujours trouver de bons artistes avec des grandes chansons. Ça reste quand même quelque chose d'addictif, et de sentiments, la musique, qui est impalpable, et qui fait que, à un moment donné, un consommateur, il a envie d'écouter, de réécouter, parce que, justement, cette chanson, cet artiste, lui crée un ressenti, une émotion, et ça, c'est l'histoire de la musique depuis toujours, quel que soit le style musical. Après, tout change, évidemment que tout change, c'est-à-dire que, moi, ça fait 14 ans que je suis président de Warner. Avant, j'ai été indépendant, j'étais aussi dans d'autres structures majeures. Les choses ont effectivement, depuis les années 85, bien changé. C'est-à-dire qu'en 85, c'était la crise, le vinyle ne vendait plus. On avait support de la cassette qui était un peu obsolète. Et c'est vrai que c'était la crise. Et que de 87-88, au moment où on a eu l'avènement du CD, qui était beaucoup plus cher hein, à l'achat, hein, mais qui au final coûtait moins cher à fabriquer qu'un vinyle, on fait que les revenus mondiaux ont été multipliés par 4. Donc là, on passait d'un travail d'artisan, qui est quand même à la base notre premier métier, c'est un métier d'artisan. On a beau être des major compagnies, avoir l'impression qu'on a des artistes qui règnent sur la planète, ça reste un métier d'artisan. Mais sauf qu'à l'époque, ça s'est industrialisé parce que les revenus ont été multipliés par 4 et qu'il y a eu des nouveaux entrants qui se sont dit « voilà, nous on veut mettre un pied dans cette industrie parce qu'on veut contrôler l'ensemble de la chaîne, du hardware jusqu'au divertissement qu'est la musique ». Bon, après, on a eu effectivement plusieurs années d'euphorie, voire parfois d'exagération. Et puis, on a eu ce début de crise qui n'a pas que démarré en France. Hein. La France a été touchée 2 ans après le reste du monde. Mais en 2002, on s'est retrouvé avec les mêmes problèmes que les États-Unis avaient connus en 99. À savoir que on est passé au piratage et avec une dégringolade du chiffre d'affaires vertigineuse sur les 5 premières années, avec des baisses de moins 15% une année, moins 15 l'autre, moins 5 l'autre, moins 15, moins. Et en fait, personne voyait comment ça allait s'enliser, puis surtout tout le monde était en panique. Donc la première réaction, ça a été de dire y a certains types de répertoires qui étaient plus piratés. Bon, ceux-là, on arrête de produire leur musique. Ensuite, ça a été faire des plans sociaux pour réduire les coûts et puis moi signer l'artiste. Voilà, c'est une industrie. N'importe quelle industrie autre que notre industrie perd 5%, c'est tout de suite un drame économique. Mais quand on pense qu'on a perdu plus de 60% en quelques années, c'était carrément vertigineux. Voilà, donc je pense que les gens qui étaient à la tête des sociétés au niveau mondial n'avaient jamais anticipé une telle crise. Et du coup, d'ailleurs, la plupart sont plus là. Et puis voilà, il a fallu se réorganiser. Et c'est passé d'abord par effectivement le download avec le téléchargement. Il a fallu déjà rendre tous nos catalogues disponibles pour le téléchargement à l'acte. On a eu plusieurs expériences au niveau mondial, au niveau francophone aussi. Et bon, on a vu tout de suite que Apple avait pris le lead sur ce mode de consommation. Et puis notamment aux États-Unis, puisque bon, Apple domine aux États-Unis. Et ensuite est arrivé le streaming, mais pas des États-Unis. Le streaming est arrivé d'Europe. Spotify, c'est suédois. Ensuite, on a eu Deezer, qui est en fait une émanation d'un site pirate. Et qui, à un moment donné, on leur a dit que ce n'allait pas être possible de continuer comme ça, en tout cas l'industrie en France. Et donc, en fait, ils ont recherché à exister dans un modèle légal et payant et gratuit.
Quand Deezer arrive, et donc le streaming, on se dit tout de suite, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui va changer pour l'industrie, ou on ne s'en occupe pas trop, et on regarde ce que ça va donner ou pas.
Mais en fait... On s'est rendu compte assez vite, enfin en tout cas moi j'étais très supporter de Deezer dès le début, parce que en fait moi je suis un fan de musique à la base, et je me disais c'est quand même super de pouvoir avoir la plus grande bibliothèque du monde chez vous pour 9,99, d'autant plus qu'à l'époque la réalité c'est qu'il y a des abonnements à 9,99, il y avait du gratuit payé par la pub, où les gens, ça leur permettait de tester, de voir que ça leur plaisait, que c'était quand même super comme mode de consommation. Et puis surtout, il y a eu tous ces deals avec les opérateurs, et notamment Orange, où on a créé des bundles, et où en fait, c'était indolore pour les gens à l'intérieur. Alors certes, nous, c'était un mode de rémunération effectivement beaucoup moins important que du premium. Hein. À l'époque, je me souviens, on appelait ça un peu le cadeau bonus. Mais la réalité, c'est que ça obligeait les gens, quand je dis obligé, il n'y avait pas d'obligation, mais en tout cas, ça leur permettait de voir que c'était super comme système. C'est-à-dire qu'une fois que les gens avaient un abonnement, et c'était ça le plus positif, c'est que en fait 90%, 95% avaient un taux de satisfaction sur l'utilisation de ce mode de consommation, le mode d'écoute. Bon voilà, et donc, du coup, c'est vrai que au début les Américains voyaient ça d'un très mauvais œil. Eux commençaient à se reconstruire avec le téléchargement au travers d'Apple. Et d'ailleurs Apple n'y croyait pas beaucoup non plus. Puisque à l'époque, Apple, qui est quand même une société innovante, qui a toujours innové, historiquement, hein, pour le coup, n'a pas vu arriver le streaming et a été obligé d'acheter Beats. Sa première fois, je crois que c'était 3 milliards d'euros à l'époque, est un investissement colossal pour Apple, et parce qu'ils avaient pris énormément de retard. Alors bon, là, ils sont en train de compenser leur retard. Parce que bon, ils avaient beaucoup d'informations sur les clients d'iTunes, et ça a permis leur parc de device, leur parc de téléphone, de configurer les téléphones autrement, sur les mises à jour, de pouvoir les ramener plus facilement. Ils avaient leur numéro de carte bancaire, ils avaient beaucoup d'informations sur eux, ce qui leur a permis d'aller beaucoup plus vite aux États-Unis. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que les États-Unis ont été assez longs à convaincre du bien fondé du streaming. Bon, en France, on a eu différentes approches. Il y avait des acteurs qui étaient plutôt méfiants, d'autres qui étaient contre, d'autres qui voyaient un vrai avec plus. Mais c'est vrai que la tendance de consommation, aujourd'hui, on voyait que les voitures, on n'achetait plus de voitures comptant, on n'était plus propriétaire, on la prenait en leasing. On a eu plein d'exemples comme ça, où on voyait que une partie de la population était prête à ne plus être propriétaire, mais à être dans l'utilisation qu'il faisait soit d'un service, soit d'un objet, soit d'un... Et le streaming, c'est ça. Donc voilà, je pense que y a encore un fort attachement finalement à l'objet, parce qu'on voit que la France, par exemple, est en retard sur le streaming par rapport à certains pays mondiaux, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la distribution physique fait qu'on a encore 3800 points de vente en France, ce qui est énorme, que certaines personnes sont encore attachées à l'objet, parce que quand je parlais tout à l'heure de sentiments, de ressentis, il y a aussi besoin d'avoir un attachement à un objet. C'est des gens qui souvent d'ailleurs sont un peu plus âgés. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est qu'un CD. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la moitié du marché est encore physique, mais on voit quand même que le streaming se développe rapidement. Alors pas assez rapidement à mon goût. Aujourd'hui on est à 4,5 millions d'abonnés payants. Quand l'Allemagne, alors certes qui a une population plus importante que nous, mais en proportion, ils sont quand même plus développés, parce qu'ils ont 10 millions d'abonnés payants, même s'ils conservent un marché physique fort, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il faudrait qu'effectivement ça se développe plus vite. Alors peut-être que ça s'est développé moins vite cette dernière année, pour des raisons un peu techniques, c'est-à-dire qu'il y a eu la fin un peu des bundles, et du coup qui se sont transformés en premium, ils sont comptabilisés en abonnés payants, mais sauf qu'ils ne payent pas la même chose. Donc la valeur a augmenté, même si le nombre a augmenté que de 500 000. Mais voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mode de consommation qui, effectivement, est en train de déferler sur la planète. Alors, moi, je parle effectivement de ce qui se passe en France, mais on voit que mondialement, on a vu récemment l'association entre Tencent et Spotify. On voit la croyance même des investisseurs quand on voit l'introduction en bourse de Spotify. On sait que Tencent va s'introduire aussi en bourse certainement dans les mois qui arrivent, et on sait que le développement, on a vu les chiffres mondiaux qui sont parus récemment, on est sur une croissance à plus de 8 points, ce qui est énorme, enfin c'est pas arrivé depuis des dizaines d'années. Et donc, en l'occurrence, c'est vraiment le streaming qui tire tout ça. En plus, on voit bien que il y a plein de pays émergents où là, pour le coup, il n'y avait pas du tout de marché. On était que sur le piratage. Ils ne sont pas passés par la case physique CD. Et il se trouve que ces marchés-là, aujourd'hui, effectivement, commencent à se développer sur le streaming, avec un potentiel de consommateurs hors norme. Donc. Je pense qu'effectivement, ça serait difficile aujourd'hui pour quelqu'un de démontrer que le streaming n'est pas le mode de consommation du futur.
Justement, avec ce mode de consommation, on dit souvent, maintenant, un artiste peut sortir son morceau, on pourrait très bien faire un morceau dans sa chambre, le balancer sur SoundCloud et devenir, je ne sais pas, une star de la chanson.
La vérité, c'est que aujourd'hui, les choses sont effectivement plus faciles en termes d'enregistrement, parce que ça c'est la technologie fait que ça s'est démocratisé, que ça coûte beaucoup moins cher, enfin en tout cas pour un certain type de musique. Il se trouve qu'effectivement, il y a des plateformes de distribution, de pure distribution. Bon, ma foi, ça s'appelle de la distribution, mais en fait. Nous, on n'est pas, on est distributeur, mais on est avant tout distributeur parce qu'on distribue nos artistes. Mais à la base, on est producteur. C'est différent comme métier. C'est-à-dire que nous, la distribution, c'est juste en fait un service supplémentaire. Mais notre métier de base, il est très simple, c'est de faire en sorte déjà de comprendre l'artiste qu'on signe, d'avoir envie de le développer, parce qu'on pense qu'il a du talent. Aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre un chèque, de l'argent sur la table. Ce qui fait la différence, c'est comment vous accompagnez l'artiste et les outils que vous mettez à sa disposition, à savoir, au jour d'aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent des indépendants, des jeunes artistes, ok, on va sur TuneCore. Alors déjà, sur TuneCore, j'ai toujours pas repéré un artiste qui fait une grande carrière. Et dès qu'il commence à voir un peu des débuts de résultats, il dit pas, tiens, je continue chez TuneCore, il va essayer d'aller voir un producteur pour pouvoir se faire signer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le modèle, c'est juste un modèle de laboratoire pour se faire repérer. Ce qui est très bien d'ailleurs. Hein.
Un artiste comme Chance the Rapper qui a publié un album entièrement sur SoundCloud, ensuite passé via TuneCore et qui gagne un Grammy, il y en a un.
Mais vous savez quoi, dans l'histoire de la musique, vous pouvez toujours trouver une exception. Mais moi, malheureusement, je ne peux pas faire tourner mon modèle économique avec les exceptions parce que j'ai plein de gens qui travaillent chez Warner Music. Et si ils travaillent à ces postes-là, c'est parce que c'est nécessaire. Si je pouvais faire fonctionner Warner Music avec 10 personnes, j'adorerais, ça me ferait moins de travail déjà. Mais la réalité, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que souvent, les gens regardent la partie immergée. C'est-à-dire que par exemple, ils vont regarder, tiens, dans tel label, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Et eux, ils pensent qu'il y a 5 ou 10 personnes. Donc ils se disent, ah bah tiens, on peut avoir un label avec 5 personnes, puis avoir des gros succès. La réalité, c'est qu'ils oublient que derrière, il y a tout un service qui fonctionne, que ce soit au streaming, que ce soit au niveau des data, que ce soit au niveau des influenceurs, que ce soit des social media, de l'achat de pub digital ou traditionnel d'ailleurs, au niveau du CRM, au niveau du commercial même physique, du juridique, du 360 pour tout ce qui est leur image, tout ce qui est inside, tout ça, la réalité, c'est que les gens s'en rendent pas compte. C'est normal parce que ça passe au travers des labels à la base. Et ils se rendent pas compte que derrière, il y a tout. Alors je parle même pas des fonctions support, à savoir les royalties, la comptabilité et l'ensemble de ces fonctions additionnelles.
Est-ce que ça veut dire que les labels prennent moins de risques maintenant avec le streaming ?
Vous prenez toujours des risques, puisque à la base, et ce que je disais en préalable, c'est tout change et rien ne change. Rien ne change, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours trouver, je vous dis, la bonne chanson et le bon artiste. Si vous avez la bonne chanson, ben, au bout d'un moment, le public adore. Là, récemment, on a une jeune artiste qui avait déjà fait un tube l'année dernière qui s'appelle Comportement, qui s'appelle Aya Nakamura. Et il y a 3 semaines, elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Jaja. Aujourd'hui, elle est troisième du streaming en France sur la semaine qui vient de s'écouler, avec plus de 3 millions de streams sur la semaine. Juste parce qu'à un moment donné, les gens adorent cette chanson et ils ont envie de l'écouter, de la réécouter, de la réécouter, de la réécouter. La réalité, elle est là. C'est pas plus compliqué. Vous avez beau à un moment donné avoir un artiste sur lequel vous croyez énormément, vous pensez que vous avez vraiment un tube, mais en même temps le 100% réussite en tant que producteur, ça n'existe pas. Sans ça, il n'y aurait plus qu'un producteur. Et puis, ils n'en veulent pas. Vous avez l'impression que, mais il se trouve qu'ils n'en veulent pas, et c'est eux qui décident. C'est toujours le public qui décide à l'arrivée.
On aura encore besoin de maisons de disques à l'avenir, même si le streaming se développe encore et encore.
La réalité d'abord, c'est que dans le streaming, il y a des gens qui écoutent quand même les anciens titres. Comme vous avez pu le remarquer, que les anciens titres, c'est des catalogues, et que les catalogues, allez, à 95%, sont détenus par les majors. Donc il n'y a plus que 3 majors aujourd'hui. Donc si les gens... imaginons par exemple, demain, Spotify a envie de devenir producteur, en disant, regardez, on a la plateforme, etc. Forcément, on ne sera pas content. De fait, peut-être qu'ils n'auront plus accès au catalogue. Et c'est comme si vous aviez un magasin de disques dans lequel vous auriez que les produits de chez Warner. Il se trouve que le consommateur, lui, il ne regarde pas que c'est chez Warner ou chez un autre. Il dit, j'aime cet artiste ou j'aime pas. Donc, si vous voulez pouvoir écouter la discographie de Véronique Sanson ou de Prince, eh bien, il va bien falloir qu'à un moment donné, vous puissiez avoir un abonnement sur une plateforme qui distribue ces enregistrements. Deuxième point, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il y a un vrai savoir-faire chez les producteurs pour développer de la musique. Parce que si ce n'était pas le cas, bah, les artistes resteraient, comme vous disiez tout à l'heure, chez TuneCore. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que quand on regarde l'ensemble des développements d'artistes, que ce soit en France ou mondialement, je n'ai pas l'impression qu'ils soient tous chez TuneCore. Loin s'en faut. Donc, mais pour une raison assez simple, c'est que les gens pensent que sur le streaming, ça se fait tout seul. La vérité, c'est que c'est beaucoup d'investissements et de micro-investissements avec beaucoup de gens qui doivent travailler dessus. Warner, on a changé récemment l'ensemble de notre structure où on a un gros bloc digital, mais qui recouvre aussi bien le streaming que le CRM, que l'innovation, que l'ensemble des influenceurs, des social media, la data, très important, la pub. Voilà, parce qu'on a besoin aussi d'informations.
Du jour, est-ce qu'un jeune artiste a intérêt, s'il est bon évidemment, à signer dans une maison de disques, dans une grande maison de disques?
Vous savez quoi, je pense que c'est un vaste débat, tout le monde pourra vous dire tout et son contraire en vous donnant des exemples et des contre-exemples. Après, la réalité, c'est que ça coûte cher le marketing. C'est pas. Vous pouvez, moi-même, au début de ma carrière, j'ai monté mon propre label en tant qu'indépendant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas trouvé ça super, hein, puisqu'après, j'ai refait d'autres fois dans ma carrière. Mais les autres fois dans ma carrière, j'avais appris de la première fois, et que les deux autres fois où j'étais indépendant dans ma carrière, j'avais des financements où je pouvais rentrer en compétition avec les majors en termes d'investissement. Et alors, certes, aujourd'hui, on peut dire que les investissements sont peut-être un peu moins lourds. C'est l'impression qu'on a. Mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la bataille se fait énormément sur les contenus, sur l'image. Et tout ça, il faut le créer et tout ça, ça coûte de l'argent. Et après, il faut arriver à le monétiser et à le mettre en perspective et faire en sorte de le mettre dans le bon timing. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire que on voit, et c'est le problème des toutes petites structures. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de tout faire. Ils sont obligés de faire la comptabilité, ils sont obligés d'aller voir leur banque, ils sont obligés d'emprunter de l'argent, de faire les royalties, de faire les codes ISRC, la fabrication. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas concentrés sur le cœur de métier. Hein. Moi, aujourd'hui, les labels, on fait en sorte qu'ils aient les meilleurs outils possibles, avec les meilleurs départements, avec des spécialistes, et de façon à ce qu'ils restent concentrés vraiment sur l'artiste, sa musique, et de façon à le développer. Donc, ce n'est pas un discours pro-anti-major, parce que je pense que ça, c'est un discours dépassé depuis bien longtemps. C'est juste avoir les structures les plus... on va dire les plus efficaces et les mieux adaptées aux artistes. Et alors, nous, on fait en sorte de pas trop signer d'artistes pour ces raisons-là. Je préfère avoir moins d'artistes en signature et pouvoir leur donner 100% de chance. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à chaque fois. Mais en tout cas, on se dit, on a fait le maximum pour lui. Plutôt que me dire, j'en ai plein, et bien en jetant la musique au plafond, en disant, tiens, il y en a bien un qui restera collé. Et pour les autres, bah, tant pis, j'ai aussi une approche différente.
En conclusion, les majors restent ces grands géants faisant la pluie et le beau temps. Malgré les crises et les tentatives de disruption, elles sont là. Le dernier périple en date pour elles, c'est Spotify qui petit à petit commence à signer directement des artistes et laisse poindre l'idée qu'il pourrait devenir un jour un label. Mais comme le dit Thierry Chassagne, dans ce cas, les majors pourraient décider d'enlever leurs artistes des plateformes. Souvenez-vous, elles détiennent 80% du catalogue de Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Tout change, rien ne change. Pour l'instant. Dans le prochain épisode de BOM, nous parlerons de musique classique et de sa place actuelle dans le marché de la musique à l'heure du numérique. À bientôt.